en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Dans votre itinéraire, quel a été mon père jusqu'à présent à vos yeux, le moment essentiel ?
Oh, l'appel de Dieu. Mais ce sont ces réalités que l'on comprend plus tard. Je pense aux disciples d'Emmaüs. Ils comprennent qui est Jésus alors que Jésus est devenu invisible. Et je comprends plus tard, c'est-à-dire à longueur d'avancée dans la vie, d'abord ce que j'ai reçu de mes parents. Ils ne m'ont jamais fait de discours sur Dieu. Mais je les ai vus vivre, je les voyais vivre dans la droiture et dans la justice. Et puis, la surprise de Dieu. Je souhaitais, depuis l'enfance, devenir professeur d'histoire. Parce que j'avais eu de très bons professeurs d'histoire, je voulais les imiter. Et si j'ai fait des études, d'abord au lycée Montaigne à Bordeaux, puis à l'école normale supérieure, où j'ai hésité d'ailleurs entre les lettres et l'histoire, et finalement m'orienter vers les lettres, mais j'ai continué à faire de l'histoire, je souhaitais toujours enseigner l'histoire dans un lycée ou à l'université, puisqu'ensuite j'ai fait l'école française de Rome, et puis Dieu est passé par là.
Dans une église en plus, non ?
N'exagérons pas. Non. Pendant que
on m'a dit que c'était à Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Oui, c'est vrai, mais précisons ou élargissons. Pendant que j'étais étudiant à l'école normale supérieure, j'ai appris à prier d'une manière nouvelle. Il y avait un prêtre, notre aumônier, qui d'abord ouvrait l'évangile, et quand il ouvrait l'évangile, on avait l'impression que la personne même de Jésus surgissait, apparaissait. Et puis, j'ai appris à prier d'une manière personnelle. J'avais toujours prié, mais j'adressais des demandes à Dieu. J'ai découvert le Christ. Et j'ai prié d'une autre manière. Et il est vrai que j'allais habituellement, quelquefois tous les jours, dans les églises du quartier latin, de Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Saint-Séverin, en passant par Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et je prenais le temps de regarder vers Dieu et de poser sans doute la question « Qu'attends-tu de moi ?» Et c'est à travers la prière qu'est venu cet appel « Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas prêtre ?» Et je dois ajouter que un prêtre que je connaissais, qui avait été mon aumônier de lycée à Bordeaux, et qui était devenu évêque d'ailleurs, m'a posé à ce moment-là la même question. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas prêtre? Et je ne me lasse pas d'être étonné par la manière dont Dieu s'y prend pour intervenir dans nos vies. Et puis à un certain moment, alors que j'ai mis longtemps pour de multiples raisons à choisir vraiment, à un certain moment, j'ai pris la décision de m'engager. Et depuis ce moment-là, j'étais à Rome à ce moment-là, je vois encore, j'ai posté une lettre par rapport à l'éducation nationale, et à partir de ce moment-là, j'ai eu la certitude, la conviction d'être conduit. Et je continue à apprendre à me laisser conduire par celui qui dit lui-même qu'il est le chemin.
Mais est-ce que, dans des moments comme cela, on se sent différent des autres ?
Non. Comment dire ? J'ai beaucoup reçu de mes camarades du lycée de Bordeaux, de l'école normale supérieure, différents des autres. Ce n'est pas d'abord l'impression primordiale. C'est plus qu'une impression, c'est la conviction. Ta vie se réalisera vraiment si tu acceptes de répondre à cet appel et de te laisser conduire. Autrement dit, ce n'est pas le sentiment de la différence, c'est le sentiment d'une espèce de, comment dire, d'obéissance radicale, dans laquelle on apprend la confiance plus forte que tout. Dieu est là et il est fidèle.
Et vous êtes fils unique, c'est une nouvelle que votre mère a reçue assez difficilement, donc l'annonce de votre intention d'être prêtre.
C'est une des principales épreuves que j'ai connues, et que je n'oublie pas. Effectivement, mes parents étaient croyants, mais ils s'étaient habitués à la perspective pour leur fils d'une carrière universitaire. Et moi-même,
c'était bien parti.
envisager le mariage, devenir père de famille. Et puis, il y a cet appel. Et pour ma mère, ce fut une épreuve terrible. Et pendant des années, c'est pour cela que j'ai attendu, je me disais, je parviendrai à la convaincre. Mais je n'ai jamais réussi à la convaincre. Aucune explication n'était efficace. Il n'y a eu qu'un événement, c'est le jour de mon ordination. À Bordeaux, dans l'église même où mes parents s'étaient mariés, où j'avais été baptisé, où ont eu lieu ensuite les obsèques de mes grands-parents et de mes parents. Le jour de mon ordination, c'était la fête de Saint-François d'Assise. Je l'avais choisi ainsi, le 4 octobre 1970, et je vois encore ma mère, mon père avait accepté, il en était même heureux profondément, même s'il n'osait pas le dire. Et mes parents, qui jusque-là priaient ensemble, ont arrêté de prier ensemble. Au moment où ma vocation s'est dessinée comme le chemin ouvert. Et je vois encore ma mère, maman, le jour de mon ordination, au début figée, crispée, réticente, inquiète. Et puis, après, et dès le lendemain, elle n'était plus la même. Et elle ne m'a plus jamais reparlé de son opposition. Comme si l'événement lui-même, le signe de l'ordination, avait convaincu que ce chemin était ouvert. Je suis ensuite parti à Paris quelques années, puis je suis revenu à Bordeaux, et ma mère a suivi mon ministère de jeune prêtre à Bordeaux avec beaucoup de confiance et de paix. Elle était très proche.
Alors évoquons un autre moment, un autre niveau bien sûr, mais moment essentiel quand même. Peu de gens savent sans doute qu'avant d'être élu en 2009 à l'Académie française, celle-ci vous avait honoré d'un prix, à l'occasion donc du rapport que vous aviez rédigé et qui avait été adopté et signé collectivement par l'Assemblée plénière des évêques de France. Donc cette lettre aux catholiques de France sur la foi, la proposition de la foi aujourd'hui. Alors c'est une lettre qui a marqué intellectuellement, qui a été traduite d'ailleurs je crois en 6 langues. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit, et ça a fait réfléchir énormément. Comment expliquez-vous, donc 14 ans après, que ce fut un tel événement? Quelle était l'idée force qui a ainsi bousculé les gens?
Je n'ai rien calculé. On m'avait demandé, la présidence de la conférence épiscopale française, Mgr Duval, m'avait demandé de présenter un rapport, et les termes même ne sont pas de moi, proposer la foi dans la société actuelle. Quelques années plus tard, j'ai été particulièrement heureux de découvrir que ce terme, cette expression, se trouvait dans le discours par lequel le pape Jean XXIII, le bienheureux Jean XXIII, j'aime beaucoup Jean XXIII, Jean XXIII, ancien nonce à Paris, devenu pape Jean XXIII, avait introduit le Concile Vatican II en disant qu'il ne s'agissait plus seulement de défendre la foi, mais de la proposer. Et de la proposer en tenant compte à la fois de son contenu et des formes nouvelles dans lesquelles elle pouvait s'exprimer. J'ai réuni un groupe de travail. Il y avait notamment Mgr Doré, qui est ensuite devenu archevêque de Strasbourg, Hippolyte Simon, qui est archevêque de Clermont-Ferrand, et d'autres amis, et le père Gaget, doyen de la faculté de théologie catholique de Paris à ce moment-là. Au fond, le chemin s'est dessiné devant nous. Nous n'avons pas calculé. Et nous sommes très vite tombés d'accord sur une conviction commune qui a toujours aujourd'hui sa pleine valeur. Nous avons à être chrétiens et à devenir chrétiens dans une société qui n'est plus chrétienne, où les références publiques à la foi catholique ont disparu. Mais nous considérons, je considère, que cette société qui n'est plus chrétienne ne rejette pas le christianisme, elle l'ignore. Et comment être chrétienne en cette société? C'est aussi l'intuition de cette lettre et du rapport que vous avez évoqué, qui vient d'être publié, dont nous reparlerons tout à l'heure. L'intention, c'est, nous avons à aborder des temps nouveaux pour l'évangélisation. Nous ne sommes pas au lendemain de la Révolution française. Nous ne sommes pas non plus au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes ni en 1800, ni en 1905. Autrement dit, il faut que l'Église du Christ apprennent davantage à se situer, non pas de l'extérieur dans une attitude défensive ou agressive, mais de l'intérieur d'elle-même et des convictions qu'elle porte en elle. C'est-à-dire de la force qui est dans l'Évangile et dans la personne du Christ. Une position non défensive qui est en même temps une position de proposition précisément positive. Et cette lettre aux catholiques de France, il me semble, a dessiné des chemins que nous continuons à ouvrir dans une société qui n'est plus chrétienne, nous encourager à devenir chrétiens à frais nouveaux de l'intérieur de ce qui nous est donné par Dieu.
Alors, il y avait une phrase capitale dans cette lettre. Si vous me permettez, je vais la relire. Nous refusons toute nostalgie pour des époques passées où le principe d'autorité semblait s'imposer de façon indiscutable. Nous ne rêvons pas d'un impossible retour à ce que l'on appelait la chrétienté. Donc, pas de nostalgie, de l'action. Retroussons nos manches, quoi, c'est ça.
Mais il faut ajouter, et je lis aussi pour aujourd'hui, Et je le disais lors d'une intervention que je faisais l'autre soir dans une paroisse de la périphérie d'Angoulême, nous devons résister à deux tentations. Et elles sont quelquefois fortes, précisément la nostalgie du passé. Continuons à rêver du temps où l'étiquette catholique pouvait apparaître publiquement. Et puis, en même temps que la nostalgie du passé, la tentation du repliement. Restons entre nous, colmatons les brèches, gérons la pénurie. Or, la lettre aux catholiques de France et le rapport récent nous disent non, notre référence, c'est la parole même de Jésus. Il ne dit pas à ses disciples « Restez entre nous ». Allez, restez entre vous, allez, allez. Et puis, je donne souvent le sacrement de confirmation à des garçons et à des filles qui ont autour de 14-17 ans pour la majorité, également à des adultes. Et à ce moment-là, la référence, c'est l'événement de Pentecôte. Quand l'Esprit-Saint est donné, que se passe-t-il pour les apôtres? Ils sortent d'eux-mêmes, ils prennent la parole, ils disent ce qu'ils ont à cœur, ce qui leur a été donné, la révélation, Jésus est vivant, ressuscité. Et j'entends encore ce jeune de la jeunesse ouvrière chrétienne de mon diocèse, revenant l'an dernier du rassemblement qui avait eu lieu à la Courneuve, et disant « J'ai compris, Jésus est ressuscité, ça veut dire il est vivant au milieu de nous. » Et il ajoutait « Et moi, je veux être baptisé. » Et je lui ai demandé aussitôt, je l'ai revu encore la semaine dernière pour l'appel décisif des catéchumènes, car il se prépare au baptême. Je veux être baptisé. Je lui ai dit, pourquoi veux-tu être baptisé? Il m'a répondu aussitôt, pour sortir de la violence. Ça en dit long sur la situation familiale. Autrement dit, vivre le baptême pour nous tous, ou vivre l'ordination pour nous qui portons le signe de l'ordination, prêtres, évêques et diacres, comme le signe positif du don de Dieu qui passe par nos personnes. Dans notre société, telle qu'elle est, non seulement elle n'est plus chrétienne, mais elle est incertaine et à la fois fragile et dure.
Pour continuer à découvrir Mgr Claude d'Agens, Canal Académie vous invite à consulter l'intégralité de l'émission « L'essentiel avec Mgr Claude d'Agens » de l'Académie française. Journaliste Jacques Pogam pose 7 questions essentielles à ses invités académiciens. Retrouvez-les dans nos émissions en habit vert à la rubrique « L'essentiel ».